L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Olivier Samuel, administrateur et membre du Conseil du Consistoire israélite du Bas-Rhin. À propos de l'actualité, bien évidemment, de la guerre en Ukraine, Olivier Samuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, beaucoup de membres de la communauté se demandent de quelle façon ils peuvent venir en aide aux Juifs d'Ukraine via le Consistoire. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place ?
Oui, on a mis quelque chose en place. D'abord, de façon très anticipative, comme on a l'habitude avec la cellule de crise, il y a une question un peu de veille, où ça fait depuis une quinzaine de jours qu'on est déjà en contact avec les autorités locales, avec les associations juives humanitaires qui sont positionnées sur ce secteur-là, géographiquement parlé, et aussi pour anticiper en fin de compte l'ensemble des besoins et des réponses possibles et des scénarios possibles, avec soit une arrivée massive ou soit une arrivée diluée, avec quelques familles, beaucoup de familles, ou beaucoup de familles. Donc oui, on a fait un travail d'anticipation discret et efficace. Efficace. On a essayé d'être efficace et effectivement, on est aussi très sollicité de la part des membres de la communauté qui sont, comme toujours, la notion de solidarité est très forte et on l'avait déjà vu il y a 2 ans pendant la crise du Covid, mais et chaque fois quand il y a des moments où il faut se mobiliser, on a une grande chance d'avoir une communauté qui est mobilisable et mobilisée. On a eu beaucoup de demandes et de demandes de soutien. Il y a 2 sujets. Le premier, c'est les soutiens financiers. Le deuxième, c'est les soutiens matériels. Pour l'instant, les soutiens financiers, on a fait le choix de ne pas faire de collecte. Le Fonds social fait un travail de collecte global et on travaille avec eux régulièrement. Et le jour où on aura un besoin particulier, alors on fera une collecte spécifique avec les différents partenaires sur l'accueil de ces réfugiés. Et puis, il y a les soutiens, on va dire, opérationnels. Donc effectivement, là aussi, il y a toute la question de la collecte de vêtements, de alimentaires, etc. Pour l'instant, on a souhaité temporiser en attendant de bien identifier les besoins et non pas aussi pour ne pas submerger les associations qui s'occupent de tout ça. Et puis de l'autre côté, les familles, il y a beaucoup de familles qui se sont proposées d'accueillir.
Oui.
Hein, d'accueillir les gens. C'est toujours touchant et vraiment c'est important. On aura sûrement besoin, si c'est le cas, si on accueille des familles, on aura sûrement besoin aussi de familles accueillantes à Strasbourg. Pour l'instant, on est plutôt en stand-by sur ce sujet-là. Et dès qu'on aura identifié clairement les besoins, on communiquera par les canaux habituels, réseaux sociaux, mails, etc. Et radio, bien sûr.
On sait que Israël a exfiltré 150 membres de la communauté juive vers Israël, justement. Ce n'est pas quelque chose, vous, qui est dans les tuyaux à l'heure où on parle.
Alors, il y a vraiment, aujourd'hui, on sent que il y a un tissu associatif qui est, où on a l'habitude de travailler ensemble au niveau européen. On se connaît assez bien avec l'American Joint, avec les Israéliens, avec les différentes structures qui sont vraiment sur place. Il faut vous imaginer que sur place, par exemple, en Ukraine, l'American Joint s'occupe de 10 à 15 000 personnes âgées complètement. Ici, ça serait l'équivalent de l'Abrapa. Ils ont même les salariés sur place. Ça fait depuis la chute du mur qu'ils ont toute une infrastructure pour s'occupe aussi du renouveau de la jeunesse. Il y a des camps, ils ont des sites de vacances scolaires en Pologne et dans les pays limitrophes avec 2-3 000 personnes qui passent tout l'été chaque semaine. Donc il y a des infrastructures assez importantes de premier accueil. Et nous, je pense qu'on va être plutôt dans un positionnement de deuxième accueil, ça veut dire de relais. Et donc il faut attendre en fin de compte que ça se positionne, sachant que les familles réfugiées, pour l'instant, préfèrent rester dans les zones limitrophes. D'une part parce que les hommes sont restés en Ukraine et d'autre part parce qu'ils ne savent pas la durée du conflit et qu'il y a une tendance à dire bon, on attend, on va voir, et c'est les retours qu'on a. Et effectivement, il y a une partie qui a été exfiltrée aussi vers Israël. Les Israéliens sont très présents en Moldavie pour cela et laissent la possibilité aux gens qui veulent immigrer. Mais là aussi, c'est un choix des familles. Est-ce qu'ils veulent immigrer ou ils veulent juste attendre que le conflit passe Donc on est aujourd'hui dans une période, on va dire, expectative. Et il faut pendant ce temps préparer, anticiper les différentes situations possibles.
Vous avez des contacts avec les associations qui, eux, font remonter, le bien-être. On va dire le bien-être, c'est un terme peut-être un peu galvaudé dans cette situation-là. Mais la situation des familles juives en Ukraine aujourd'hui, toutes les villes, pour l'instant, ne sont pas assiégées. On sait qu'il y a des endroits où les gens vivent. On va dire encore tranquillement et loin des chars russes. Vous avez, vous, des nouvelles directes ?
Directement, non, mais par contre, indirectement, oui, parce que je suis en contact. On a un réseau d'associations et de centres communautaires européens. On a un deuxième réseau avec tout ce qui est autour du social, donc avec le Fonds social en France, mais en réseau aussi avec toutes les associations, les institutions sociales européennes. Donc, on a un réseau qui fonctionne assez bien. Puis, on s'est croisés, ces gens que je connais aussi, parce qu'on s'est croisés dans des formations, dans des colloques ou des choses comme ça. Donc on a le réseau. La situation, elle est quand même assez diverse. D'abord, on a une question de nombre. Il y a une discussion, est-ce que c'est 200 000, 400 000 on est plus proche des 200 000 a priori, d'une part. Et puis d'autre part, on a aussi une typologie de la communauté. C'est des gens qui sont plutôt pas trop religieux. Il y a quelques groupes qui sont très religieux et qui sont plutôt Chabad. Et les Chabad ont une organisation fabuleuse derrière aussi. Donc il y a toute une infrastructure qui s'est mise aussi en place là-dessus. Et sur la partie... et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des gens qui sont russophones et germanophones et pas du tout ou très peu anglophones et encore moins francophones.
Oui.
Et donc leur choix d'orientation, on va dire le choix, c'est limité, mais la possibilité de bouger en Europe, elle irait plutôt vers l'Allemagne et vers la Pologne plutôt que vers la France. Et donc aujourd'hui, il y a plutôt une très grosse infrastructure qui est en train de se monter pour l'accueil des réfugiés en Allemagne. Et dans un deuxième temps, en fin de compte...
Ce sera plus une aide logistique alors.
On va voir. On est positionné. Alors en parallèle, on a eu un gros travail aussi avec la préfecture et avec et la protection civile. Donc on est prépositionné là-dessus. S'il fallait qu'on accueille un très grand nombre de réfugiés, on serait en capacité de le faire. Et vous savez, on a de la chance d'avoir une cellule de crise qui est très efficace. Donc on a imaginé le pire des scénarios, comme le plus léger, qui est quelques familles, et puis le scénario qui va sûrement se dessiner d'accueillir un groupe de familles et qu'on dispatchera, qu'on organisera posément, mais de façon...
On va parler de cette cellule de crise. Elle est existante tout au long de l'année. C'est une cellule que vous montez. On sait qu'il y avait une cellule de veille sanitaire pendant la crise du Covid, cellule de crise pendant ce conflit en Ukraine. Elle veille à l'année ou c'est
ouais,
pas...
on a un système assez simple. C'est une cellule de crise, entre guillemets, avec un noyau. On est très peu de personnes. Mais pour autant, on a un côté veille, que ce soit aussi bien lors des cimetières qui ont été profanés, lors de l'attaque terroriste de Strasbourg, lors de la crise sanitaire, qui était une première, parce que c'était la première fois qu'on l'a mobilisé pour un sujet médico-social et sanitaire, mais qui a été extrêmement révélateur, extrêmement intéressant aussi de l'intérêt de la culture de la gestion de crise, qui est une culture d'être aussi posé, de pouvoir anticiper, de pouvoir imaginer différents scénarios, et puis d'avoir des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble avec des réflexes et qui se font confiance les uns aux autres. Et surtout, le point principal, c'est les réseaux qui est autour de la cellule de crise. Parce que la cellule de crise, c'est un noyau, mais autour, et c'est quelque chose qu'on a appris avec le temps, on a créé presque des sous-cellules. Effectivement, un sujet très médico-social avec toutes les associations autour du social, un sujet qui va être plutôt sécuritaire, et puis deux, trois autres sujets autour. Mais on a la chance surtout d'avoir un tissu associatif autour qui est fantastique, et la crise du Covid nous l'a montré. On a su mobiliser un tissu associatif. Le tissu associatif a su se mobiliser, et prendre le relais de certaines de nos actions de façon, et même des fois, c'était nous qui prenions le relais. Je ne veux surtout pas donner un effet hégémonique, en fait, au contraire, c'est plutôt un effet de collaboration, et l'humilité des situations qu'on a à vivre nous entraîne à une perception très collaborative et pas du tout directive.
Au niveau des membres du Conseil du Consistoire israélite du Bas-Rhin, quels sont les contacts directs que vous avez avec les membres de la communauté? Comment est-ce que vous récoltez justement les impressions, les peurs que peuvent engendrer ce genre de conflit, par exemple?
On a la chance d'avoir un conseil qui est assez impliqué dans la vie communautaire. Donc, d'abord, on est un petit conseil, on n'est que 6. Mais pour autant, on a des vies communautaires très variées tous et très impliquées. Et donc, on vit au quotidien dans la communauté. Et donc, on perçoit cette inquiétude. Mais moi, ce que je perçois surtout, c'est cet élan de solidarité et cette envie d'avancer qui est presque plus importante que le besoin à ce moment-là. On a envie de faire quelque chose, on est tous comme ça, quoi. Et il y a une impatience, on va dire, c'est un peu étonnant, mais... Et là-dessus, on ne peut que le reconnaître. Et puis surtout, il y a un élan, il faut l'entretenir, il faut l'organiser aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des mauvaises choses en voulant faire bien les choses. Mais on vit au quotidien avec la communauté, et puis c'est comme ça qu'on le perçoit.
Alors juste un dernier point à propos de la communauté. Cette communauté 2.0 qui s'est révélée au début de la crise sanitaire, ça aussi, c'est quelque chose que vous avez mis en place pour, on va dire, pour le bien-être, pour la communication, pour le réseautage de tous les membres de la communauté, pour rester soudés, en fait.
Ah, c'est vrai que la crise sanitaire nous a fait passer du 19e au 22e siècle, presque de façon anticipative à d'autres vies communautaires et même à certains mondes professionnels. C'est vrai que cette digitalisation à travers les Zooms, mais plus que les Zooms, se réapproprier cette notion de lien qui était le ciment qui nous a accompagnés dans cette crise sanitaire il y a 2 ans. Et c'est fou qu'on se retrouve aujourd'hui là, parce que ça fait presque 2 ans, jour pour jour, qu'on a ouvert la cellule de crise et qu'on a commencé les premiers Zooms. Je crois que c'était le 8 ou le 9 mars. Donc il y a une date assez particulière. particulière. Et effectivement, c'était le lien. C'était cette volonté de conserver le lien, d'entretenir le lien et de ne transformer que le digital dans un outil et pas une finalité. Et on a eu la chance aussi d'essayer de créer aussi une diversité pour que chacun s'y retrouve et que tout d'un coup, on trouve des cours où il y avait des gens religieux par religieux qui se croisaient, qu'on trouve des activités ludiques où il y avait des gens qui n'avaient pas du tout ces affinités là-dessus. Et puis aussi la question d'hommes-femmes. Moi, j'étais très, très touché par le fait que c'était la première fois que je voyais des cours très ouverts où il y avait des hommes et des femmes mélangés et avec des hommes et des femmes qui avaient la capacité d'accéder à des cours dans lesquels ils n'avaient pas du tout l'habitude d'aller et d'autres personnes qui avaient l'habitude d'aller à des cours qui entendaient des conférences dans lesquelles ils n'auraient pas du tout été. Et j'ai trouvé que cette mosaïque était presque le tova, quoi, les bonnes choses de cette crise-là, et que ça a fait ressortir, en plus de la solidarité, un point vital de notre enjeu communautaire.
Ça a fédéré. Ouais. Un dernier point par rapport à cette crise en Ukraine, si des gens nous entendent, ont envie de participer, d'amener leur effort, anticiper, comme vous avez décidé de le faire. Vous avez un numéro de téléphone, il se rapproche de vous, de l'ASJ peut-être.
Ils mettent juste un petit, on a un Facebook, commune consistoriale, qui met un petit message sur le Facebook, sur les emails ou les WhatsApp qu'ils ont, mais le plus simple c'est même un petit mail, cyber@cyber.fr. Ou secrétariat@cyber.fr. Et normalement, on a un petit message, on le garde, et puis voilà. Ne soyez pas vexés si on ne répond pas à tout le monde, parce que c'est très compliqué dans ces cas-là. Mais surtout, soyez vigilants, et on sera communiqué au moment qu'on aura besoin de chacun. Voilà.
Olivier Samuel, administrateur et membre du conseil du consistoire israélite du Bas-Rhin.
Merci pour votre accueil.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.